Jean-Claude Mabéa.
Il est 18h à Ebimpe, c'est la même heure à San Pedro, partout en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonsoir à tous, tout de suite les titres. Infrastructure routière, le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, ministre des Sports et du cadre de vie Robert Begré-Mambé, a procédé ce mercredi aux ouvertures successives à la circulation de la voie de contournement d'Abidjan Y4, du quatrième pont d'Abidjan, des voies de sortie est et ouest d'Abidjan, de l'échangeur du carrefour Makassi et du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Le quatrième point sera donc ouvert à la circulation demain jeudi, et le ministre Amédée Kouakou reviendra sur ses caractéristiques en début de ce journal. Coupe d'Afrique des Nations J-3, le président du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, François-Albert Amicha, était face à la presse nationale et internationale ce mercredi pour faire le point de l'organisation de la dite compétition. Vous l'entendrez dans cette édition. Un dossier d'actualité consacré à la CAN 2023 à San Pedro qui accueille la poule F vous sera proposé par Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra. Il va nous plonger dans la ferveur de ce rendez-vous footballistique dans la cité balnéaire. Et puis, présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est le Maroc qui a remporté la palme face à l'Afrique du Sud. Merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Les populations du district d'Abidjan pourront mieux se déplacer avec la mise en service des infrastructures routières par le Premier ministre Robert Begré-Mambé ce mercredi 10 janvier 2024. On fait le point avec Jean-Mélène Bitti sur l'ouverture à la circulation de la voie de contournement Y4 du tunnel de la mairie d'Abobo, de l'échangeur d'Ebimpe et de Makassi.
J'ouvre provisoirement cette voie à la circulation urbaine.
C'est en ces termes que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la mise en service des infrastructures routières qui, selon lui, viendront fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan.
Nous ouvrons à la circulation ce bel ouvrage tout simplement pour faciliter le passage entre les communes. Les Ivoiriens qui sont à Yopougon, qui veulent aller au plateau, peuvent utiliser ce quatrième pont. Et ceux qui sont au plateau, qui veulent venir à Yopougon, peuvent utiliser ce quatrième pont. Mais nous demandons une seule chose, la prudence, parce que le chantier n'est pas encore entièrement terminé.
Lors de cette visite, le Premier ministre est revenu sur le coût total de ces projets mis en service.
Nous avons regardé 5 projets et les 5 projets, quand ils seront tous terminés, vont coûter 402 milliards de francs CFA. Voici les gros investissements que le président Alassane Ouattara a décidé de faire pour Abidjan en vue de donner au district d'Abidjan le statut d'une grande métropole moderne.
Selon Touré Moussa, président de l'Union syndicale des transporteurs et conducteurs d'Abobo, l'ouverture à la circulation de la voie express sera très bénéfique pour eux.
Ça va nous rapporter beaucoup de recettes. Auparavant, il y avait la lenteur. On avait trop de problèmes pour avoir la recette. Aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir la recette et puis la rapidité de nos véhicules.
Les populations pourront dès ce mercredi circuler sur la voie de contournement Y4, le tunnel de la mairie d'Abobo et l'échangeur du stade des Bimpe. Par contre, le quatrième pont, lui, sera ouvert à la circulation dès ce jeudi 11 janvier 2024.
Lors donc de cette visite, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, est revenu sur les caractéristiques du quatrième pont et les actions qui ont été menées pour l'indemnisation des populations des sites impactés.
La réalisation de ce projet a consisté à la construction d'une plateforme d'une chaussée en 2x3 voies, d'une voie express de 2x3 voies, avec un espace qu'on a laissé au milieu de près de 30 mètres pour construire le BRT. On a construit 3 échangeurs côté Yopougon qui sont franchis par le projet, que sont le boulevard principal entre le carrefour de Sikorex
Si vous passez par le carrefour sable, vous croisez un pont. Et lorsque vous êtes au niveau de la brigade anti-émeute de Yopougon, vous croisez un autre pont. Il y a un passage en dessous pour aller au quartier Lokoguro. D'une plateforme de péage où il y a 24 voies, le pont fait 1 km 400. Mais en réalité, ce n'est pas un pont. C'est deux ponts qui sont collés pour partir, 4 voies pour venir. Pourquoi on a mis 4 voies ? Pour réserver une voie au bus rapide. Donc, le passage de la lagune fait 792 mètres et après, on a 600 mètres côté Adjamé pour pouvoir passer au-dessus des rails. Et après, dans la seconde phase du projet, on va se raccorder d'Adjamé jusqu'au sapeur-pompier. Le projet a coûté environ 154 milliards, 112 milliards qui ont été financés par la BAD et le reste par le Trésor public ivoirien. Pour réaliser ce projet, on a déplacé 19 744 personnes qui ont été tous indemnisées. On a conçu des maisons à Songon pour 406 personnes. Il y avait des maisons ici, on les a relogées à Songon. C'était une exigence de la BAD.
Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, était au micro de Jean-Mélène Bitti. À 72 heures du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui était hier mardi 9 janvier 2024 face aux internautes dans le cadre du Gouv Talk, rendez-vous d'échange en ligne initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a tenu à rassurer les 2 millions de visiteurs attendus quant aux dispositions nécessaires prises par le gouvernement pour les accueillir et les héberger. On écoute le ministre Siandou Fofana.
Nous sommes conscients que à la veille d'une CAN, notre ministère est amené à héberger l'ensemble des participants, y compris ceux qui nous font l'amitié de venir participer à cette fête de l'Afrique, de sa jeunesse et que dit de tous les sportifs africains. Et donc c'est un peu plus de 2 millions de personnes que nous allons avoir à héberger sur toute la période de la compétition. Et donc nous nous attelons à créer les meilleures conditions pour les héberger, les recevoir et les divertir et faire en sorte que le concept Abidjan est plus doux au monde, c'est vivre dans les assiettes, dans les restaurants, dans les pubs, dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs. Donc c'est l'ensemble de toutes nos activités que nous mettons en branle en rapport avec le ministère de la Culture, le ministère de la Communication et naturellement ceux de l'artisanat. Vous comprenez que dans un tel contexte, sans oublier ceux de transport, nous allons vivre des grands moments de Cannes jamais vécus sur le continent africain. Les 24 et qui nous font l'amitié d'être sur le territoire ivoirien vivront des émotions dont ils se rappelleront encore parce que la population ivoirienne veut vivre une CAN de l'hospitalité au sens réel du thème et nous sommes là pour accompagner et cette hospitalité doit se vivre d'abord avec notre ministère dans ses attributions et dans le déploiement de nos actions.
Nous venons d'écouter le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où l'équipe du Sénégal, championne d'Afrique en titre, est arrivée dans la soirée du mardi 9 janvier pour défendre son titre. Sadio Mané et ses coéquipiers ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport international de Yamoussoukro par de nombreux supporters ivoiriens et sénégalais. Témoin pour Radio de la Paix, Émile Yao.
C'est exactement à 21h30 GMT que l'Airbus A319 transportant les Lions du Sénégal s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Yamoussoukro où les attendaient de nombreux supporters ivoiriens et surtout sénégalais.
Ndiagandoy, secrétaire général de 12e guindée de Yamoussoukro. Actuellement, Yamoussoukro, seulement il y a 1500 Sénégalais. Ça comptait les Sénégalais de la diaspora qui doivent venir. En tout cas, le stade est trop petit pour nous parce que c'est 20 000 places seulement. Alors, comme on nous a dit, c'est 18 400 places qui est disponible. Donc, on va noyer tout le monde.
Un accueil chaleureux et exceptionnel qui dénote de la suite des événements, indique Elay Diouf, ancien footballeur international, membre de la délégation sénégalaise.
Franchement magnifique, on voit que les gens nous attendaient et merci pour l'accueil chaleureux qu'on vient de recevoir et je crois que la fête va être belle.
Alors, aujourd'hui, quelles sont les intentions de l'équipe sénégalaise?
On est les tenants du titre, on a la meilleure équipe et aujourd'hui, on ne se cache pas derrière rien du tout et je crois que on est venu pour prendre du plaisir, donner du plaisir et garder ce qui nous est très cher, qui est la Coupe. Et
bien que mobilisés pour la cause de leur équipe, les supporters sénégalais déplorent toutefois certaines insuffisances organisationnelles que relève.
Ndiagandoy, juste un appel qu'on voudrait lancer par rapport à notre gouvernement. Ils devraient au moins se mettre à notre disposition Village Cannes, mais dans tout cela, rien n'a été établi.
Après le Sénégal, les Lions Indomptables du Cameroun effectueront leur arrivée ici à Yamoussoukro, en terre ivoirienne, ce mercredi 10 janvier, en cours de journée. Émile Yao, Yamoussoukro. Yamoussoukro, Radio de la Paix.
À noter que la poule C logée à Yamoussoukro comprend le Sénégal, la Gambie, la Guinée et le Cameroun. Autre chose dans ce journal, institué le 25 octobre 2021, le Centre d'études prospectives CEP a effectué hier mardi aux deux plateaux sa rentrée solennelle 2024. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timo Koutouré, par ailleurs président du conseil d'administration de ce think tank, a rappelé les enjeux de la création de ce centre, né dans un contexte où l'Afrique en particulier et le monde en général sont confrontés à de multiples défis politiques, socio-économiques, humanitaires et géopolitiques. On écoute là-dessus le ministre Sidi Timo Koutouré.
Le CEP est un think tank, en somme un réservoir d'idées qui permet de se prononcer sur les politiques de développement, certes ivoiriens, mais surtout africains. Donc l'envergure, le champ d'action du CEP couvre non seulement la Côte d'Ivoire, mais surtout l'Afrique. Nous possédons en notre sein des expertises en recherche et en études. C'est ce qui nous a amené durant ces deux dernières années à faire de la réflexion sur différents sujets liés à la géopolitique, à l'internationalisation, à la COVID, à l'agriculture, etc. Tous ces différents projets de réflexion ont été soumis aussi bien au gouvernement qu'aux différentes institutions qui en avaient besoin. Certaines études ont été l'objet d'exploitation, nous les avons constatées, et donc il était de bon ton, à l'entame de la nouvelle année, de venir présenter le nouveau programme d'action du CEP, ce qui a été fait. Ça sera une année très riche, qui a démarré par la remise de diplômes aux étudiants qui ont participé à la formation de l'UMF Suisse, qui est une université suisse, qui en partie et le CEP pour des formations sur le leadership. Parce que certes, il est bon de mener la réflexion, mais il est aussi bon de former ceux qui vont porter la mise en œuvre de ces réflexions à l'avenir. Et c'est ce qui justifie cette conjonction d'initiatives avec l'un de nos partenaires, UMF Suisse par ailleurs. Et nous fondons beaucoup d'espoir en cette jeunesse qui a beaucoup de choses à faire en l'avenir.
Le président du Centre d'études prospectives CEP, Sidi Timo Koutouré, a assuré aller encore plus loin en 2024 en lançant des projets encore plus innovants, en développant de nouvelles avenues de réflexion et en renforçant des collaborations stratégiques. Au cours de cette rentrée solennelle 2024 du Centre d'études prospectives, une conférence inaugurale a été prononcée par l'historien en relations internationales, Dr. Bangaline Goran, sur le thème « La gouvernance politique, sécuritaire et économique dans l'espace CEDEAO, quel rôle pour la Côte d'Ivoire ?» L'enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa a soutenu que la Côte d'Ivoire, en raison de son rôle de locomotive de la sous-région, devrait avoir une position d'état stratège, comme à l'ère du président Oufo-Boigny, dans un monde où les contextes géopolitiques sont mouvants. Écoutons les explications du docteur Bangaline Goran.
Et aujourd'hui, si nous faisons une réflexion rapide, chacun à son niveau, nous sommes d'accord que après la gestion du dossier lié à la vague des coups d'État, on peut tout de suite se faire une idée de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire a reculé ou progressé en termes d'influence dans ce qu'on a appelé son interland historique, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger. Si la Côte d'Ivoire a reculé, alors quelles sont les leçons qu'on tire de ce recul-là et qu'est-ce qu'il faut poser comme analyse par rapport à la gestion de la suite ou en tout cas de la suite de ce dossier parce qu'il est encore pendant. Si la Côte d'Ivoire veut gagner en influence, non seulement garder son influence au niveau de son interland immédiat ou encore son influence au niveau de l'UMOA et avoir des intentions d'assumer bien sûr son rôle de centre géopolitique stratégique naturel de la CEDEAO, elle doit revenir à son statut, ou en tout cas à sa posture d'État stratège. Parce qu'en matière de politique étrangère, qu'importe le cadre d'action de l'État, qu'il soit un cadre souverain ou un cadre collectif, le État stratège ne connaît qu'un seul critère de raisonnement, la projection de son influence.
Voilà, c'était Dr Bangaline Goran. Il est enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa. Un mot de l'actualité internationale, le Maroc a décroché ce mercredi à Genève la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au terme d'un bras de fer houleux, l'opposant à l'Afrique du Sud qui a pointé du doigt le bilan de Rabat dans le domaine. Le candidat marocain, l'ambassadeur Omar Nisber, a obtenu 30 voix contre 17 pour son homologue sud-africain Solisi Nkosi lors d'un vote de d'un vote à bulletin secret, rapporte l'agence Reuters. Sans transition, on passe au sport. Football, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CONCACAF, François-Albert Amicha, était face à la presse nationale et internationale ce mercredi 10 janvier 2024 au Palais de la Culture de Trècheville lors d'une conférence de presse. Le point des préparatifs, les dispositifs d'accueil des délégations qui ont commencé à arriver en Côte d'Ivoire depuis quelques jours déjà et leur conditions de travail ont été évoquées durant les échanges. Le patron du CONCACAF a surtout rassuré les journalistes quant à l'engagement et la disponibilité de la Côte d'Ivoire à faire de cette 34e édition de la CAN un moment de délice sportif empreint de fraternité porté par un slogan d'émotion chargée, la CAN de l'hospitalité. François-Albert Amicha.
Notre CAN, ce sont 24 équipes, 648 joueurs, 52 matchs, 101 arbitres, assistants, arbitres et instructeurs VAR, 10 000 volontaires, 20 000 bénévoles, 350 agents opérationnels, 1 500 000 spectateurs attendus dans les stades pour 600 millions de téléspectateurs escomptés. Notre CAN, ce sont 5 villes hôtes avec autant d'aéroports rénovés, 3 cités CAN. Mais il convient de dire que le CONCACAF est prêt à relever les défis qui se présentent et à surmonter les obstacles avec résilience, créativité, calme et maîtrise de soi. Notre stratégie et notre approche reposent sur le capital humain, constitué d'un vivier d'expertise nationale et internationale. À ce jour, nous pouvons affirmer que grâce aux efforts consentis par le gouvernement, toutes les infrastructures sportives sont prêtes. Au niveau des infrastructures non sportives, il faut noter que les cités CAN de Boaké, de San Pedro et de Korogo, l'hôtel président et l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro, ainsi que le RAN Hôtel de Boaké, sont à nouveau fonctionnels après d'énormes travaux de rénovation. À Abidjan, le Sofitel Hôtel Iwa a connu les mêmes soins. Nous avons créé des comités locaux du CONCACAF à l'effet de donner l'aspect festif et populaire à ce grand événement sportif.
Le président du comité d'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, François-Albert Amicha, dans des propos recueillis par César Yao. Plus que quelques jours pour entamer la plus prestigieuse compétition continentale, CAN 2023, et San Pedro qui accueille la poule F s'active pour que ce rendez-vous sportif soit éclatant. Dans ce dossier d'actualité, notre correspondant régional dans le Bas, Sandra Kofi Benson, nous plante le décor avec les réactions des populations avant le début de la compétition.
San Pedro aux couleurs de la CAN, cela est visible déjà à partir de l'ancien corridor 3S avec un décor harmonieux présenté sur les talus dont l'expression se résume par un dinio qui en langue locale veut dire bienvenue. La CAN de l'hospitalité est visiblement acceptée par les populations de San Pedro selon le Premier ministre Robert Mambé.
Ces populations qui sont à San Pedro sont mobilisées pour faire de chaque équipe leur référence, c'est-à-dire aucune équipe ne sera orpheline à San Pedro. Toutes les équipes auront des supporters. Ce que demande le président Alassane Ouattara, parce qu'il nous demande d'être chacun l'ambassadeur de la CAN.
Des supporters avec des maillots et t-shirts aux couleurs des drapeaux des différents pays hôtes. Ndiaye Moussa, président de l'Union des fédérations des organisations de jeunesse du Bas-Sassandra, donne quelques dispositions de mobilisation des supporters.
La ville est divisée en quatre. Le lac et la cité sont les supporters du Maroc et le QG de Sereke 1 jusqu'à Sereke 5, c'est les supporters du Congo. Les QG Gagnouaga et puis les supporters des Zambie, depuis Tanri, Bardo, les QG, Place Ado. Et les supporters des Tanzanie, c'est depuis le corridor jusqu'à l'université, les QG à la place Maracana.
La CAN, c'est aussi les opportunités d'affaires. Les acteurs de la restauration, de l'hôtellerie, les maquis et bars s'activent ça et là pour un accueil des visiteurs. Pour Henri Martin, opérateur économique dans le secteur de l'hôtellerie, il faut mettre tout en œuvre pour la satisfaction des visiteurs.
Dans les investissements, nous avons mis un accent particulier sur les matelas, que nous avons tout changé. Nous avons refait la peinture. Nous avons même fait un château d'eau, parce qu'il est aussi un peu récurrent, les coupures d'eau. Nous avons remplacé pratiquement 92% des climatiseurs. Nous avons remplacé également tous les postes téléviseurs. Nous avons fait tout pour être à la hauteur du défi.
L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, l'organisation de la CAN entraîne quelques grincements des dents. Ouseidou Camara, président du réseau des ONG, mouvements associatifs et coopératives du Sud-Ouest, il faut permettre aussi aux petits commerçants de profiter de cette CAN.
La fan zone qui s'installe à la Rotary. Combien de femmes de San San Pedro seront là-bas. Les stands, pour un 12 mètres carrés, il faut payer 600 000. Pour 24 mètres carrés, il faut payer 1 million. Et déjà, des grosses sociétés sont citées et qui viennent d'Abidjan, qui ont une accréditation pour venir occuper l'espace là qui devait permettre aux gens de San Pedro de vraiment s'amuser. Même les jeunes qui ont habituellement payé les taxes au niveau de la mairie, qui avaient leur kiosque autour de la Rotary, ont été déguerpis. Ça veut dire que pendant un mois, leur boutique est fermée. Alors qu'ils ont rêvé avoir de l'argent aussi. La CAN devait donner plus de joie, plus d'engouement. Mais si on déguerpit tout le monde, j'ai peur. Aujourd'hui, la seule joie qu'on peut exprimer, c'est le recrutement de quelques jeunes pour être soit volontaires ou bénévoles. Notre objectif, c'est de plaider pour la cause de nos populations. Qu'on permette à nos populations de vraiment gagner quelque chose.
Comme Poudi, que San Pedro attend beaucoup de cette CAN. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Ce dossier d'actualité marque donc la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel du principal titre de cette édition. Infrastructure routière, le premier ministre chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, a procédé ce mercredi aux ouvertures successives à la circulation de la voie de contournement d'Abidjan Y4, du quatrième pont d'Abidjan, des voies de sortie est et ouest d'Abidjan, de l'échangeur du carrefour Makassi et du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Le quatrième pont donc sera ouvert à la circulation demain jeudi. Le ministre Amédée Kouakou est revenu sur ses caractéristiques en début de ce journal. Il est 18h passé de 21 minutes à San Pedro. Ce journal s'achève. Merci de votre aimable attention. L'actualité reprend ses droits demain jeudi à 7h sur Radio de la Paix. Excellente soirée à toutes et à tous.